un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passées, présentes et parfois même futures. Un livre ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup.
Un livre ? Oui, mais quel livre ? Eh bien, l'Oiseau des Lires est là pour vous conseiller des livres. Il y a longtemps qu'on n'est pas venu vous voir, mais là, exceptionnellement, on est deux. Je suis donc avec Gwen aujourd'hui pour vous présenter des livres.
Bonjour à tous. Eh oui, à deux. Eh, ça change. Donc aujourd'hui, ça va être les animaux, la cause des animaux, mais aussi les animaux dans ce qu'on a de plus large aussi, au sens le plus large. Et c'est moi qui ouvre le bal, du coup, avec un album de Barou aux éditions du Seuil Jeunesse qui s'appelle « Où êtes-vous ?». Où êtes-vous ? J'aime beaucoup cet album, alors j'avoue, voilà, comme d'hab. Hein. C'est un petit album de Barou, donc les illustrations de Barou sont tout le temps très cartoon et très humoristiques. Et en fait, c'est l'histoire de ce roi, de ce petit roi lion qui, en fait, s'ennuie. Voilà, il s'ennuie, il a pas le moral. Tout le royaume a pas le moral, du coup, puisqu'il a pas le moral. Et il trouve une idée géniale un matin, ils vont jouer à cache-cache. C'est bien à cache-cache. Donc tout le monde, tous les animaux se cachent. Et le voilà parti à sa recherche de cache-cache. Donc on va chercher des puces, on va chercher bien sûr les girafes, les éléphants, les machins. Tout ça pourquoi ? Bah pour que le roi soit content, mais aussi autre chose. Parce que c'est là que j'aime beaucoup cet album, c'est qu'il va parler de la cause des animaux, puisqu'à la fin on a un petit dossier de 4 pages sur les espèces disparues. Donc en fait, sans le vouloir, il nous emmène voilà, à la découverte de ces animaux aussi qui ont disparu malheureusement, puisque le roi ne les a pas retrouvés, hein, on est toujours sans nouvelles de ces animaux-là. Et c'est très intéressant, voilà, ça reste un petit album sur la cause un album sur la cause des animaux, mais aussi voilà, sans ce côté trop voilà, appuyé sur ça. Finalement, juste une histoire de cache-cache qui finit avec ce petit dossier autour des animaux disparus et pourquoi ils ont disparu. Il y en a seulement 4-5, mais il y en a beaucoup plus malheureusement qui ont disparu, en grande partie dû à l'homme, bien sûr.
Eh bien, un autre album, Le Canard Fermier. Et là, c'est plus un album sur les animaux humanisés. Disons que c'est un fermier qui fait travailler le canard. Le canard, alors l'album est particulièrement drôle parce qu'on a les coins-coins, on a le pauvre canard que l'on voit repasser, tout faire, charger le foin. Et il est tellement épuisé un soir que les autres animaux vont décider de réagir. La nuit, on les voit petit à petit monter dans la chambre où le fermier est affalé sur son lit. Ils vont le chasser, le faire tomber, le chasser du lit, le chasser de la ferme et le fermier s'en va en courant. Et les animaux sont contents, ils font la fête, c'est la joie. Et sur la dernière image, on voit les animaux travailler, tous le travail de la ferme, et qui commande ? Le canard. C'est la ferme des animaux pour les plus jeunes.
Et on va enchaîner maintenant avec les romans, du coup. Et le premier, bah, il est pour moi, du coup. Hein. Titan noir de Florence Aubry aux éditions d'Urwergue sur les orques et les zoos. Alors, c'est un roman qui est très intéressant, hein, très grands ados, par contre, où on va suivre le parcours de deux personnages, enfin trois en comptant l'orque, du coup, bien sûr. On va suivre le personnage de cette jeune fille qui est embauchée dans un zoo au départ pour s'occuper de la manchotière, donc un bassin pour les manchots, et qui ensuite va devenir dresseuse de cet énorme orque noir, tout noir. D'ailleurs, ce qui fait sa fierté à ce zoo, c'est cet orque noir, Oscuro. Maintenant, on va l'appeler Titan. Et on va comprendre pourquoi dans l'histoire, puisque Oscuro est un personnage assez énigmatique, si on veut dire, chez les orques. Et donc, cet Oscuro, ce Titan, il va vivre avec cette jeune fille. Et en parallèle, dans le roman, donc on va suivre ce personnage de cette jeune fille, en parallèle, les pages noires nous racontent l'histoire d'Oscuro, son histoire avant le zoo. Donc Titan noir, avant le zoo. Et aussi un autre personnage qui a l'air de très bien le connaître. On ne sait pas trop pourquoi. Et on va découvrir qui est vraiment Titan Noir. Cette jeune fille va découvrir l'envers du décor, si je puis dire, sur les zoos et les cétacés. Notamment puisque surtout cet album parle bien sûr des cétacés, donc orques, dauphins, baleines, dans les zoos qui sont donc exploités et comment sont ramenés ces animaux parfois à leur état en fait et comment on les dresse en fait, comment on dresse ces grands animaux à faire des spectacles pour les humains et comment les animaux nous voient en quelque sorte, c'est un peu de l'anthropomorphisme pour certaines parties du roman, mais ça reste aussi tout à fait valable. Et notamment, il faut savoir, j'ai découvert ça à la fin du roman, je me suis renseigné après, vous voyez, c'est sur la souffrance des animaux dans les zoos quand même, et j'ai découvert ça à la fin, il y a une loi française qui a été votée au départ il y a 2 ans, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, pour interdire la reproduction des dauphins, donc interdire à terme tout ce qui est dauphin et cétacé en Europe, enfin dans les zoos français, suite aux mauvais traitements en fait qui sont constatés vraiment, hein, je veux dire, les tailles des bassins étant trop petites, ils sont mal nourris, exprès, pour que la faim leur donne envie d'obéir en fait. Donc il y a une loi qui avait été votée pour ça, pour interdire la reproduction en captivité et donc à terme éviter, éliminer les derniers dauphins, si je puis dire, à leur mort naturelle, quelque sorte, qu'il n'y ait plus de dauphins ni de cétacés dans les zoos. Et elle a été refusée, les zoos français ont réussi à la faire sauter pour un vice de forme. Et donc elle est en cours de renégociation, cette loi, justement là-dessus. Donc c'est un très beau roman, enfin moi j'ai trouvé que c'était un roman qui était vraiment très très beau, très fort, autour des animaux dans les zoos. Et vraiment c'est l'envers du décor aussi des zoos, et c'est réaliste, je veux dire, c'est quelque chose qui se passe vraiment, on voit ça régulièrement quand même dans les infos, il n'y a pas besoin non plus de... Enfin voilà, on peut pas se voiler la face tout le temps, donc c'est voilà, c'est un roman qui est très fort et qui nous encourage aussi peut-être à voir différents les cétacés et autres animaux dans les zoos, peut-être que les bons traitements, comme on dit, comme la jeune fille au départ finalement, qui est très naïve et qui est persuadée que dans les zoos ils sont aimés et tout ça, va découvrir qu'il y a aussi beaucoup d'histoires de pognon derrière les zoos et que ça c'est voilà, c'est quand même la motivation générale dans les zoos pour l'instant, dans certains zoos en tout cas surtout.
Alors avant de vous présenter Jefferson, je voudrais répondre à Gwen en disant que j'ai lu aussi un roman de Chabas qui parle des éléphants en Inde et la façon dont ils sont dressés, maltraités pour pouvoir promener tous ceux qui veulent se balader à dos d'éléphant. Et il est très très fort parce qu'on voit aussi vraiment comment ils sont maltraités dès le moment où on les capture. Donc je vais vous parler de ce fait maintenant de Jefferson, de Jean-Claude Mironlova. Donc là, les animaux sont humanisés. C'est un roman très très fort sur la cause animale. Pour vous le situer, je vais vous lire un tout petit peu le début et vous comprendrez après mieux ce qui se passe. Donc Jefferson arrive chez son coiffeur pour se faire refaire sa houppette. Et voilà, la porte est fermée, les fenêtres sont fermées. Il hésite à fracturer parce que c'est Jefferson, c'est quelqu'un de très... Voilà, on fait pas n'importe quoi. Et puis il s'en va. Et puis finalement, le remords l'empêcha d'aller bien loin. Et s'il était arrivé quelque chose ? Et si Carole était en danger ? L'idée qu'il pourrait se distinguer d'une façon ou d'une autre aux yeux de la jeune fille blaireau lui fit accomplir un brusque et irrésistible demi-tour. 2 minutes plus tard, il était de nouveau sous la fenêtre ouverte, à l'arrière de la maison. « Monsieur Edgar, mademoiselle Carole » appela-t-il, et comme personne ne daignait répondre, il prit son courage à deux mains et se hissa à l'intérieur au risque de faire un accroc à son veston. Il se retrouva dans un bureau encombré d'un empilement de divers flacons, boîtes, mouches, shampoings et autres lotions capillaires. Le seul son qui lui parvenait du salon voisin était celui de la radio locale. Une voix précipitée demandait aux auditeurs de faire d'urgence un numéro payant, grâce à quoi, avec beaucoup de chance, il ne gagnerait rien du tout. Il s'avança lentement et appela encore. « Monsieur Edgar, mademoiselle Carole, c'est Jefferson, je me suis permis. » La chèvre dormait ferme sous son casque, la bouche entrouverte sur un dentier impeccable. Un mince filet de salive descendait au ralenti sur son menton. Elle semblait flotter dans une douce béatitude. Peut-être rêvait-elle à ses arrière-petits-biquets. Jefferson contourna le premier fauteuil tournant qui était vide de tout occupant. Et ce qu'il vit d'abord, ce furent 2 chaussures crème de M. Edgar, pointées vers le plafond. Elles étaient impossibles à confondre. 2 chaussures professionnelles dont le brave homme se vantait quotidiennement qu'il s'y sentait comme dans des pantoufles. Un pas de plus et Jefferson découvrit les 2 jambes parallèles alignées sur le sol. Puis le tablier blanc soigneusement boutonné jusqu'en bas. Puis en remontant la paire de grands ciseaux dont l'une des branches était enfoncée jusqu'à la garde dans le torse de M. Edgar. Le sang dessinait sur le tissu du tablier une large tache rouge dont la forme rappelait la carte de Madagascar. Ironie du sort, le mot « définitif » était brodé juste au-dessus. Jamais le salon de coiffure n'avait aussi bien porté son nom. Monsieur Edgar semblait dormir comme sa cliente, mais lui ne rêvait à aucun biquet. Il ne rêvait plus à rien du tout. Il était mort. Jusqu'à ce jour, la vie avait heureusement préservé Jefferson. Il n'avait jamais été confronté à une émotion aussi forte, si bien que sa réaction fut spectaculaire. Il commença par suffoquer, puis il émit un bruit étrange, puis qui faisait à peu près qu'on pourrait traduire en bon français « fichtre ». Voilà un spectacle tout à fait étonnant. Et il conclut par un long et plaintif grrr, dont le sens approximatif était « on a beau dire, ça fait quelque chose de voir ça ». Puis il fit ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Il s'agenouilla près du corps, murmura « attendez, monsieur Edgar, je vais vous enlever ça ». Prit les ciseaux dans sa main droite et les arracha de la blessure en s'étonnant de la résistance opposée. On croit qu'une lame enfoncée dans un corps se retire comme une d'une motte de beurre. C'est faux, on adhère. C'est le moment que la chèvre endormie choisit pour émerger de son doux rêve et ce qu'elle vit, c'est-à-dire le corps de M. Edgar au sol et près de lui le criminel, l'arme à la main, ne lui laissa l'ombre d'un doute. Elle ouvrit une bouche démesurée et poussa un cri si aigu que le petit miroir à nuque se fendit. Et Jefferson, bien sûr, va s'enfuir, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Donc on va suivre son aventure avec son ami Gilbert le cochon, un cochon qui est toujours plein de bonne humeur, plein d'idées, qui va toujours essayer de le tirer d'un mauvais pas, qui déjà lui dit que lui envoie tout de suite un SMS comme quoi il faut surtout pas qu'il rentre dans sa maison parce que les policiers sont déjà là pour l'accueillir. Et il va partir de ce fait en voyage organisé avec les Bellardo pour essayer de retrouver les assassins. Parce qu'il se doute qu'il y a deux assassins, il a failli être renversé par une voiture conduite par deux hommes. Et il faut dire que dans ce roman, les animaux et les humains vivent côte à côte, un peu, vous savez, comme les immigrés qu'on rejette actuellement. C'est-à-dire qu'ils arrivent à vivre ensemble en considérant quand même les animaux comme des moins que rien, mais ils vivent ensemble. Et on va découvrir au fil du roman que le coiffeur a été assassiné parce qu'il fait partie d'une association qui milite contre la maltraitance des animaux dans les abattoirs. Et cela, ils vont le découvrir grâce à Roxane, une jeune femme d'un roux flamboyant qui les accompagne et les guide dans le car qu'ils ont pris pour aller jusqu'à la ville. Elle va leur faire découvrir qu'il était un des organisateurs de cette association qui milite. Donc ils vont prendre des photos, ils montrent ce qui se passe dans les abattoirs et il y a une scène assez forte qui va peut-être traumatiser certains enfants, où l'on voit effectivement les moutons, les vaches arriver dans les abattoirs. Et ce que voit à ce moment-là Jefferson, le traumatise lui aussi. Et voilà, ils prennent conscience de ce qui se passe. Bien sûr, c'est un roman pour les enfants de 10-12 ans, donc ça va bien se terminer, ce qui agace un petit peu Gwen. Mais
j'ai rien dit là.
Non, mais tu me l'avais dit avant. Mais voilà, c'est un roman qui permet de réfléchir sur la cause animale. Et bien sûr, c'est un roman de Jean-Claude Mourlevat. Donc c'est un grand auteur, c'est bien écrit, c'est agréable à lire, vraiment à lire. Après, éventuellement, je voulais vous parler de Pax, un roman différent, un roman où l'animal, c'est un petit renard, est aussi très présent. Celui-ci, alors je ne vais pas vous en parler longtemps parce que malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps. C'est une amitié entre un petit garçon qui a recueilli un renard d'eau et qui l'a élevé, et qui a des relations très très fortes avec ce renard. Mais la guerre arrive et son père l'oblige à relâcher le renard et lui va partir vivre chez son grand-père plus loin. Nettement plus loin, mais finalement, pour l'histoire, pas si loin que ça. Et là, on va voir Peter s'interroger sur ce que va devenir son animal, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas été habitué à vivre en liberté. Et on va voir Pax essayer de s'adapter à vivre en liberté, être pris presque recueilli par une vieille renarde qui va lui apprendre à vivre libre. Et c'est un très très beau roman sur les relations entre les humains et les animaux et la liberté de l'animal, parce que Peter se rendra compte que son renard doit aussi vivre libre. Donc c'est un roman très très fort à dévorer, qui est écrit par Sarah Pennypacker aux éditions Gallimard. Et voilà, et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achète en librairie. Et peut-être avec une autre émission l'année prochaine. Peut-être.
Normalement, oui. On dit ça, mais normalement, voilà. Ce sera sûr. Bon, ben voilà, il nous reste à vous souhaiter un bon été. Du coup, profitez bien, parce que l'émission, par contre, s'arrête là.
Et lisez pendant vos vacances.
Ouais, profitez-en pour avancer dans vos lectures, ça peut être utile. Voilà, bon été à tous, et puis à la rentrée alors.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu y découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.